Michel Jean, pourquoi est-il important pour la francophonie de participer à cette réunion?
D'une part parce que l'Organisation internationale de la francophonie est partenaire des Nations Unies depuis maintenant plus de 15 ans sur les opérations de maintien de la paix. La moitié de ces opérations sont déployées dans des pays de l'espace francophone, dans des pays francophones. Donc, pour nous, s'assurer que pour l'efficacité de ces opérations de paix, que les contingents déployés soient en mesure de communiquer avec les populations, d'entendre leurs témoignages, d'entendre les instructions aussi données par les autorités, toujours en français dans ces pays francophones, est essentiel. C'est une garantie pour construire une relation de confiance avec les populations. C'est une garantie pour inclure aussi la population. Et en même temps, pour nous, dans le travail que nous faisons, c'est de donner aussi des indications claires sur le contexte culturel, le contexte politique, socio-économique de ces pays. Une opération de paix se doit de tenir compte des populations. Autrement, elle est vouée à l'échec. Donc, la francophonie, depuis très longtemps, fournit aussi, dans le cadre de ces opérations de paix, des procureurs francophones, des juristes francophones, des médiateurs francophones. Donc nous amenons de l'expertise, nous amenons des experts également, et l'ONU ne pourrait pas faire sans nous. Et donc cela fait de nous un partenaire de choix et incontournable.
Et avec quoi repartez-vous?
Je repars d'ici ravie de voir le nombre de pays ayant répondu à l'appel pour cette rencontre de Vancouver, organisée par les Nations Unies en partenariat avec le Canada, en collaboration avec le Canada et abritée par le Canada. De voir aussi, après les engagements annoncés par le Canada, de voir l'effet d'impulsion et d'émulation que cela a créé. Beaucoup de pays s'engagent logistiquement, avec de l'équipement, avec une approche aussi un peu différente de proximité, de renforcement de capacité. Donc pour nous de la francophonie, qui avons tellement de missions de paix et de situations de crise dans notre espace, nous rassemblons 84 États et gouvernements, et même quand l'attaque n'est pas faite directement, disons, sur un pays, il y a une onde de choc qui se répand sur l'ensemble de notre espace. Et avec les modes opératoires utilisés maintenant par les mouvements terroristes, c'est-à-dire de viser des lieux où l'on retrouve beaucoup de ressortissants étrangers, il m'est arrivé, par exemple, au lendemain d'une attaque terroriste sur le Burkina Faso, donc à Ouagadougou, de devoir appeler au moins 22 pays. 22 pays francophones qui étaient dans ce lieu qui a été attaqué et qui ont perdu de leurs ressortissants. Nous-mêmes, de la francophonie, nous nous sommes retrouvés toute une équipe à Bamako lors de l'attaque sur le Radisson Blu avec 11 personnes parmi les otages, et nous avons perdu l'un des nôtres, un jeune parlementaire qui venait faire la formation pour les parlementaires maliens. Donc vous voyez, c'est du concret, c'est un état d'alerte constant, c'est un besoin de protection pour les populations. Et c'est important pour nous de voir qu'autant de pays répondent. Et en même temps, de savoir que pour beaucoup de nos pays, par exemple, prenons le Mali, ou les pays du G5 Sahel, de la région du Sahel, qui veulent être aussi inclus, ils veulent aussi avoir les moyens de défendre leur territoire et de protéger leur population. Et ce que ces pays demandent, c'est souvent renforcement de capacités, des ressources, des moyens, pour être en mesure, eux aussi, pleinement, de défendre et en toute souveraineté également leur territoire et de protéger leur population.
Qu'apportent les principes de Vancouver au maintien de la paix qu'ils n'y avaient pas avant leur adoption?
Je crois qu'en ce moment, les Nations Unies se retrouvent dans une situation particulière. Le désengagement des États-Unis, par exemple, met les Nations Unies dans une situation de je ne dirais pas de précarité, mais avec moins de ressources et de moyens. Donc, il faut que la communauté internationale, que les pays membres, une vraie volonté de défendre cette organisation, ses capacités d'agir et de trouver des moyens peut-être innovants pour faire en sorte que ces opérations de paix puissent se poursuivre. Donc, par exemple, rien que dans la proposition canadienne, le fait d'introduire des unités mobiles, le fait de répondre en disant « nous allons travailler dans une approche de proximité pour faire en sorte que dans une dynamique de partenariat, nous puissions avancer avec de la formation, du renforcement de capacités ». C'est très intéressant de voir ça. Ce qui m'a beaucoup aussi frappé, c'est de voir certains pays africains, mais prêts à mettre à disposition des centaines, des contingents importants de 600 soldats, 1000, le Nigeria par exemple, ou le Kenya, un pays africain, je suis désolée, j'ai une hésitation entre, mais qui d'emblée répond en disant, bon voilà, nous allons envoyer un contingent de 1400 soldats. D'autres qui disent, d'autres pays qui disent, bon voilà, des unités sanitaires, des unités d'urgence, nous allons répondre pour pouvoir doter l'ONU aussi de ces moyens pour tel ou tel pays qui en a besoin. Je vois des pays qui répondent avec de l'équipement, des hélicoptères, des avions pour des interventions d'urgence, pour transport de matériel, transport de troupes. Donc, C'est intéressant de voir ce type de contribution dans le concret, logistique, équipement, formation. Et donc on est vraiment en train de voir une mobilisation qui peut faire la différence, espérons-le.
Très bien. Les jeunes et les femmes ont-ils un rôle particulier en tant qu'artisans de la paix?
Je pense oui. Par exemple, nous avons eu une activité hier justement avec des jeunes, en réfléchissant avec eux à la résolution 2250, jeunes, paix et sécurité. Les jeunes comme artisans de paix. Les initiatives que portent les jeunes pour une culture de paix, une culture de démocratie, se doivent d'être reconnues. Se dire qu'ils font partie de la solution. Les jeunes font partie de la solution. Sans eux, ce sera difficile d'aller de l'avant sur des interventions de paix qui doivent aller au-delà de la défense. Il faut aussi que cela inclue des initiatives qui sont portées par la société civile. Et en même temps, les jeunes sont comme les femmes les plus exposées en temps de conflit et de tension. C'est-à-dire que pour ces organisations criminelles qui veulent déstabiliser, très souvent, ils vont cibler d'abord les femmes, les filles, les jeunes. Donc, il faut absolument, dans nos pays où la majorité de la population, souvent 60-70% de la population a moins de 30 ans, et où en même temps on voit ce scandale du chômage chronique des jeunes, ça devient un facteur de risque énorme, notre responsabilité, c'est aussi de créer des possibilités pour les jeunes. Et la francophonie prend cela très au sérieux avec une stratégie jeunesse qui est versée dans la formation professionnelle des jeunes, l'accompagnement pour leur insertion professionnelle et la création d'emplois pour eux, l'accès à une éducation de qualité, le soutien aussi à apporter, les investissements à apporter pour leurs initiatives économiques. Donc l'entrepreneuriat des jeunes. Nous faisons la même chose pour les femmes, l'entrepreneuriat des femmes. Les sortir de l'informel, amener leurs initiatives économiques à une autre échelle. Et le fait que nous fassions ces choix a créé une dynamique très intéressante entre les jeunes et les femmes, beaucoup de solidarité. Nous renforçons les capacités, par exemple, des jeunes dans le domaine du numérique et des nouvelles technologies. Et nous voyons beaucoup de jeunes de pays du Sud, par exemple, créer des applications technologiques, des applications numériques pour faciliter et soutenir les initiatives portées par les femmes, par les collectivités rurales. C'est toujours pour le bien commun. Et ça, c'est... on sait qu'en faisant cela, on met les jeunes à l'abri. On investit aussi dans des initiatives qui sont très importantes pour le développement humain et économique durable. Donc, la résolution 1325 est aussi très importante. Même chose que la 2250 concernant les jeunes. 1325, qui a été une résolution prise en 2000, voit à mettre en relief l'importance d'impliquer aussi les femmes, de reconnaître leur apport dans des opérations de médiation et de paix. Depuis 2000, après la résolution 1325, 7 autres résolutions ont suivi, toujours sur le même sujet, le respect des droits des femmes, la reconnaissance de leurs droits, mais aussi la reconnaissance de la nécessité de lutter contre toutes les atrocités dont les femmes, les filles, les jeunes, y compris des garçons également, sont victimes en situation de conflit, de guerre et de tension. Mais vraiment, des agressions gravissimes, agressions sexuelles où le viol est utilisé comme arme de guerre. Donc, j'ai eu à intervenir au Conseil de sécurité sur cette question spécifique en disant, voilà, d'une part, la situation n'a pas changé en 17 ans. Elle n'a pas changé. On voit encore à quel point les femmes subissent les pires violences dans notre monde aujourd'hui et en contexte de tensions et de conflits. Mais en même temps, il y a une chose qui est indéfendable. On ne retrouve que 3% de femmes dans les opérations de paix. Alors que la preuve a été faite que quand les femmes sont intégrées dans ces opérations de paix et de médiation, on a tout de suite plus d'efficacité, plus de performance. Parce qu'elles ont une façon d'écouter, de créer un climat de confiance, d'établir une relation de proximité avec les populations. Les femmes, par exemple, dans des situations de conflit, qui vivent des violences, iront plus facilement vers une casque bleue femme, une femme casque bleue, pour se confier, pour chercher de l'aide, que vers un homme, surtout après avoir vécu une agression qui lui a été infligée par un homme. Donc, et on voit aussi que tout de suite, ça donne plus de crédibilité aux missions, et que même le comportement au sein de ces missions change de manière positive dès lors que des femmes en font partie. Mais 3% seulement. Alors, au Conseil de sécurité, j'ai posé la question suivante. J'ai dit, mais de quoi avons-nous peur? Avons-nous peur d'être trop performants? Avons-nous peur d'être trop efficaces? Pourquoi y a-t-il autant d'hésitation à inclure des femmes et à tenir compte de l'apport des femmes dans ces opérations de paix? Évidemment, poser la question, c'est déjà dire, et tant que ça change, il faut, parce que sans les femmes, rien n'est possible, comme sans les jeunes, rien n'est possible.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Thank you.